With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque premier et troisième lundi de chaque mois à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies, voies V-O-I-E-S, et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interview, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis, et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous. Je suis heureux, grâce à Histoire de Daron, de pouvoir offrir une tribune à l'autre moitié de la population qui est souvent mise de côté et qui, faut le dire, n'a jamais trop fait l'effort de s'inclure aussi dès qu'on parle de parentalité, sujet pourtant ô combien universel. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête des pères? Comment redéfinir la paternité à l'aube de la deuxième moitié du XXIe siècle, alors que la société a tant changé depuis une dizaine d'années? C'est ce que j'essaie de vous offrir à travers mes interviews dans Histoire de Daron. Cette semaine, c'est un moment un peu spécial pour moi dans Histoire de Daron, puisque pour entamer cette cinquième saison du podcast, je reçois une femme, en la présence d'Ixia. Le témoignage d'Ixia est d'autant plus passionnant qu'elle a vécu à la fois un accouchement en mettant au monde leur première fille, mais aussi en étant à la place de la plupart des darons, puisqu'elle était coparent durant la grossesse de Charlotte, sa compagne. Comment a-t-elle vécu les deux expériences en étant des deux côtés de la barrière? Qu'est-ce qui a différé de son point de vue quand on accouche et au contraire, quand on est à l'extérieur de la grossesse de sa chérie et qu'on en est réduit à tenir la main à côté de la personne qu'on aime et qui est en train d'accoucher? Ixia nous raconte tout ça et nous partage également la douleur de la mort de leur bébé lors de la première grossesse de sa femme et du bonheur vécu lors de la naissance récente de leurs jumeaux qui ont à peine quelques mois. Un grand merci Ixia pour tes mots et pour ta vulnérabilité, vraiment. Ton témoignage est tellement précieux dans ce podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Je voulais aussi vous proposer une nouveauté pour cette rentrée et vous offrir la possibilité après chaque épisode de m'envoyer une réaction en message vocal. Je sélectionnerai un ou deux messages que je diffuserai à la fin de l'épisode suivant et peut-être même que j'y réagirai en fonction. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode ou envoyez-moi une note vocale par téléphone, pas plus de 3 minutes s'il vous plaît, à l'email vocal@fabflorent.com, fabflorent.com. Je vous mets toutes les infos dans les notes. Un grand merci à vous et bonne écoute. Bon, on est avec Ixia. Salut Ixia.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Ixia, tu me disais que ce prénom avait été inventé par ta mère.
Oui.
C'est canon.
Oui, oui, je suis très fière. Je suis vraiment très fière. J'ai essayé de faire pareil avec mes enfants et j'ai pas réussi.
T'as un peu un sentiment d'échec, c'est ça? D'entrée.
Je trouve ça super classe d'avoir un prénom inventé pour soi. Et ouais, je trouve ça très très touchant et j'aurais aimé pouvoir faire la même chose pour mes enfants. Mais j'ai pas...
T'as pas trouvé?
Non.
Ou...
Okay. Non, puis c'est dur de s'octroyer le droit de
nommer.
Ouais. Déjà, c'est dur de trouver un prénom pour ses enfants. Alors en plus, de lui dire « je vais t'en inventer un, j'espère que les sonorités te plairont
». Est-ce que de ce fait-là, le fait d'avoir un prénom pas comme tout le monde, en grandissant, ça te faisait un peu un truc de « je suis un peu en dehors de la masse, quoi ».
En dehors de la masse pour ma mère.
Ah, ok.
Ouais, je pensais effectivement que j'étais peut-être une personne à part pour ma mère. Pas pour n'importe qui, mais pour elle, que voilà. Enfin, j'ai vraiment pris ça comme une preuve d'amour, en tout cas.
Waouh, c'est classe. Mmh. Ouais, donc de ce fait-là, toi, tu te dis, bah merde, j'ai pas réussi à faire pareil pour mes enfants, quoi. Ça fout tout de suite
oui,
beaucoup de pression.
Ouais, mais c'est pas trop grave non plus.
Okay.
J'aime beaucoup les prénoms qu'on a choisis.
Ok. Ixia, tu m'as envoyé donc un mail en me disant que tu te doutais que j'avais pas l'habitude d'interviewer des darons. Et c'est vrai parce qu'en fait, t'es la première femme
qui vient parler dans ce podcast en presque 100 épisodes. Donc je suis trop content en fait que tu m'aies proposé de venir discuter. J'ai eu je sais pas si tu avais écouté ces épisodes là, mais j'ai eu un couple de mecs qui ont fait tout un parcours GPA. J'ai eu un mec aussi qui a fait un enfant avec sa meilleure amie qui s'appelle Pierre. Si ça vous intéresse, souvent je parle aux gens, je vous mettrai les liens dans les notes si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je crois qu'une femme m'écrit. Si vous m'avez déjà écrit et que je vous ai pas répondu, je suis désolé parce que parfois ça arrive. Donc merci beaucoup d'être venu partager ton expérience de coparent, parce qu'en fait on peut appeler ça comme ça.
C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est effectivement vraiment de la coparentalité, parce que on est toutes les deux mamans, mais on l'a pas été à chaque fois de la même façon, et c'est quand même à chaque fois c'est quand même du coup un cheminement différent, et du coup ce qui rassemble tout ça c'est le mot parent, et du coup toutes les deux on est parents de nos enfants, et voilà, vraiment coparentalité, ça me va très très bien.
Et donc t'as été toi-même maman de votre première fille,
ouais,
c'est ça,
enceinte,
que tu as porté, pardon, voilà. Que tu as porté votre première fille. C'est ça?
Oui, on a eu envie, enfin peut-être moi qui était le plus pressé des deux, et peut-être que justement en étant la plus pressée des deux, j'étais peut-être aussi celle qui était le plus ok pour du coup faire une stimulation, une insémination, une grossesse, un accouchement. Je sais pas s'il y a quelqu'un sur cette planète à qui ça fait pas peur d'accoucher. Donc voilà, peut-être que comme c'était moi qui avais le plus fort désir d'enfant, c'était moi qui étais la plus prête à vivre tout ça.
Ok.
Et après, les choses ont changé.
C'est ta compagne donc, qui s'appelle Charlotte qui a porté
les deux grossesses suivantes.
On en reparlera un petit peu après. La première question que je pose à tous mes invités, c'est comment t'es venue toi l'envie d'avoir des enfants justement?
Alors elle remonte à il y a super longtemps, parce que je me rappelle je devais avoir 6 ans, et le soir en m'endormant je me couchais en calculant l'âge auquel je devais avoir mes enfants pour qu'ils soient assez vieux pour bien se souvenir de mes parents avant qu'ils ne meurent.
Ah ouais.
Ouais, c'était okay. Une préoccupation, du coup je recalculais mon âge, notamment l'âge de ma mère, donc l'âge de mes enfants, à combien de temps j'estimais qu'ils seraient assez grands pour avoir des souvenirs forts et durables. Donc
à 6 ans.
Ouais. Ouais, ouais, je m'endormais comme ça, ouais, en recalculant, et tous les soirs, je sais pas combien de temps ça m'a duré, mais je retenais pas le chiffre au final.
Ouais.
Je recalculais, je refaisais mon point là-dessus, ouais.
Ok. Et en grandissant, comment ça a évolué, cette envie d'enfant?
En grandissant, bah, je pense que tous les exemples que j'avais autour de moi étaient hétéronormés, sans qu'il y ait de jugement là-dessus.
Oui.
Enfin, c'est juste moi, les exemples que j'avais autour de moi. Donc je pense qu'à un certain moment, j'ai commencé à chercher un homme qui pourrait être le père de mes enfants. Et le problème, c'est que à chaque fois, moi, j'étais pas non plus hyper... En tant que femme, j'étais pas hyper, j'accrochais pas spécialement.
Ouais.
Donc, en tant que future mère, bon, s'il avait des critères qui me correspondaient, pourquoi pas vivre une histoire. Mais en tant que femme, ça accrochait. En tant qu'homme et femme, ça accrochait pas spécialement.
À chaque fois.
Ouais.
Ouais.
J'ai essayé. J'en ai testé plusieurs, et oui, à chaque fois je me rendais compte qu'effectivement ça pouvait être un futur père, mais ça serait pas quelqu'un avec qui je serais vraiment épanouie, quoi. Enfin, avec qui je...
Et c'est pas une très bonne idée.
Non.
De faire des enfants avec qui on sera avec quelqu'un avec
qui on
sera.
Il vaut mieux trouver un bon partenaire, un bon coéquipier.
Ouais.
Et après se lancer dans cette aventure qui bouleverse beaucoup de choses. Donc ouais, heureusement j'ai compris ça à temps.
Attends, quand ça?
Alors je suis avec Charlotte, on va fêter nos 10 ans en avril. Donc j'étais quand même assez jeune, je crois que j'avais 22 ans quand on s'est mis ensemble.
Okay.
Donc ça va.
D'accord.
Pas mis trop de temps.
C'est la première fois où tu t'es dit, ok, peut-être qu'en fait avec une femme ça pourrait être bien, c'est ça, ou...
Alors je me suis dit que ça pourrait être bien pour moi, que ça pourrait être épanouissant pour moi, mais alors je me suis dit, du coup, pour devenir parent, c'est foutu, quoi.
Oui, j'imagine qu'à un moment donné, il doit y avoir une sorte de dissonance cognitive dans ta tête.
C'était foutu pour plein de raisons. C'était foutu parce que la PMA en France était interdite, parce que Charlotte, elle n'était pas du tout branchée. Elle voulait avoir des enfants dans l'absolu, mais...
Elle a le même âge que toi ?
Elle a trois ans de plus que moi.
Ok, d'accord.
Trois ans de plus que moi.
Ok.
Et du coup, elle n'était pas spécialement branchée enfant, ou en tout cas pas tout de suite. Et puis, moi, je me posais la question de si c'était bien pour des enfants de vivre, de grandir dans une famille avec deux mamans.
Bah oui.
Donc, pour ces trois raisons-là, je me suis dit, bon, bah, c'est foutu. Enfin, est-ce que je peux faire une croix là-dessus ? Est-ce que je peux me dire, j'aurai jamais d'enfant de ma vie ?
Ça a été quoi, alors, le cheminement ? Les années qui ont suivi ?
Bah, j'ai une amie qui m'a rappelé que j'ai tenu le discours de « j'aurai jamais d'enfant », chose dont je me souviens pas parce que je trouve ça tellement hallucinant que j'ai pu moi dire ça. Je comprends tout à fait, je trouve ça très bien que il y ait de plus en plus de personnes qui puissent dire « j'aurai jamais d'enfant de ma vie », ça, je trouve ça super cool.
Ce discours se libère, quoi.
Mmh. Oui, et j'espère pour eux que toute cette pression de faire des enfants sera de plus en plus levée. Donc je trouve ça très cool pour eux qu'ils réalisent et qu'ils puissent le vivre. Par contre, pour moi, je ne comprends pas que j'ai pu l'envisager.
C'est à ce point-là ?
Ouais, c'était trop viscéral.
Mais alors, c'était quoi cette période en fait ? C'était une période où effectivement tu te disais, en fait, vu à quel point c'est compliqué de faire un enfant quand on est deux femmes, peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber ce projet, quoi, c'est ça ?
Ouais.
Ok.
Oui, Je me disais que ça allait... Enfin, je ne savais surtout pas si c'était bien pour les enfants.
Ah, vraiment, t'étais là.
Ouais.
Ok.
Je pense que la raison numéro un, c'était est-ce que c'est bien pour les enfants ? La raison numéro deux, c'est Charlotte, c'est pas trop... Elle n'en a pas envie. Elle n'en a pas envie. Et la raison numéro trois, c'était j'ai pas envie de quitter Charlotte.
Ce qui est aussi une bonne raison.
Donc du coup, je reste avec elle. Et okay. Puis...
Comment t'as fait pour lever un peu cette croyance limitante, on va appeler ça comme ça, et puis je crois en plus tellement ancré dans la société, ça commence à se lever petit à petit. Mais...
Je sais pas si je l'ai totalement levé.
Oh.
Je pense que d'avoir vu des études qui montraient que les enfants, parce que ça fait tellement longtemps qu'il y a des enfants qui grandissent dans des familles homoparentales qu'il y a du recul là-dessus. Et d'avoir vu qu'ils étaient
normalement constitués,
oui, qu'ils avaient autant de trucs qui allaient pas que les autres enfants et qu'ils allaient tout aussi bien que les autres enfants, ça m'a fait du bien. Et puis après, les enfants, c'est le désir d'enfant, c'est tellement égoïste. Enfin, c'est nous qui en avons envie. Donc je crois que mon désir et mon besoin d'avoir des enfants pouvaient l'emporter sur un peu tout. Si j'ai honte de dire ça.
Mais c'est cool de le dire.
Normalement, il faudrait que les enfants passent en priorité. Et si j'étais pas sûre que c'était ce qu'il y avait de mieux pour eux, j'aurais peut-être... Je pense qu'il y a toujours quand même une légère inquiétude dans mon esprit. Mais je pense que tous les parents sont inquiets sur tout un tas de choses. Et,
c'est ce que j'allais te dire.
Une parmi tant d'autres.
Ok. Et ça impacte pas trop fort ton comportement avec tes mômes au quotidien. Alors, ils sont encore petits, mais...
Je pense que les familles homoparentales peuvent avoir un petit peu la pression de faire des enfants qui soient bien. Parce que si jamais ils sont pas bien ou s'ils sont pas équilibrés ou quoi, ça sera dû à leurs parents. Enfin, c'est toujours dû à leurs parents, c'est toujours dû à leur mère, mais...
c'est toujours dû à leur mère.
C'est toujours leur mère qui est fautive. Mais là, en plus, il y en a deux. Alors, je te dis pas. Mais je pense qu'il y a cette petite pression de...
Tu dis ça au premier degré, cette histoire de c'est toujours dû à leur mère ?
Ah non. C'est du second degré. C'est juste...
Ok, d'accord. J'ai eu peur deux secondes.
Non. Quand on voit encore les témoignages qu'il y a et encore les... si votre enfant fait passer nuit, c'est parce que sa mère le couvre trop. Si votre enfant est capricieux, c'est parce qu'elle le porte trop. C'est une moquerie.
Ok,
vraiment.
Ok, ça marche. Je me suis dit deux secondes. Ça paraît bizarre, mais pourquoi pas. Donc oui, pardon, tu disais... je t'ai coupé, mais...
Que
de ce fait-là, c'était toujours dû de la faute de leur mère.
Oui, cette pression, je pense que peuvent avoir... Je ne vais pas parler au nom de toutes les familles homoparentales, mais je pense que c'est quelque chose qui est retrouvé, de se dire, si mon enfant, il y a quelque chose qui ne va pas, Ben, on va me dire que c'est parce que il a pas la bonne famille, quoi. Enfin,
donc, c'est chaud. Hein.
L'envie, voilà, d'avoir un enfant qui soit éveillé, intelligent, équilibré.
Parce que c'est bien connu, tous les enfants issus de familles hétéro oui. sont tout à fait équilibrés, quoi. Mmh. Vraiment, personne n'a besoin d'aller chez le psy ou d'aller en thérapie, quoi, à aucun moment. Ok. Donc ouais, il y a un moment donné où, enfin, je sais pas, je me demandais si t'étais allé chercher des exemples, tu vois, sur les réseaux sociaux ou autour de toi, peut-être dans des associations de famille, parce que tu me disais que t'avais eu un entourage assez hétéronormé. Est-ce que t'es allé, je sais pas, picorer des infos à droite à gauche ou des expériences?
Pas tant que ça. Là, très récemment, j'utilise pas beaucoup Facebook, mais récemment, on s'est mis sur des pages de familles homoparentales. Mais non, au final, pas tant que ça.
Ok.
C'était vraiment, voilà, nous, Charlotte et moi, qui avions, enfin, au début, surtout moi, qui avais envie d'enfant. Après, elle m'a dépassée, hein. Je tiens à préciser, je vous spoil la suite. Mais les choses...
les choses ont évolué.
Oui, les choses ont évolué.
Comment ça se passe alors? Il y a un moment donné où vous décidez de vous lancer dans un parcours PMA, ou tu décides toi de te lancer dans un parcours PMA, parce que j'imagine que ça t'impacte beaucoup toi de ton côté.
Elle est venue à tous les rendez-vous. Hein.
Ok.
Elle est venue à tous les rendez-vous, même le premier rendez-vous pour où ce n'était qu'un projet. C'est-à-dire que nous on a commencé à lancer le projet en janvier 2017 et j'ai été enceinte fin août 2017. Alors c'est pas très long. Avec du recul, mais quand on est dedans, oui. Chaque mois est dur une éternité. Surtout qu'on sait pas, on n'a pas le bout du tunnel, on sait pas comment est-ce que ça va se terminer. Donc,
c'est juste que j'ai en tête des parcours PMA qui sont généralement longs et compliqués, quoi, tu vois. Donc,
ouais. Alors, nous, on a eu de la chance. j'ai eu une stimulation qui a trop bien marché. Il y avait un risque de grossesse multiple, alors ils ont laissé tomber. Mais sinon, après, à chaque fois, à chaque stimulation, ça aboutit à une insémination qui aboutit à une grossesse.
Bien ouais. Donc ouais, j'imagine que 8 mois, ça fait à peu près 8-9 mois. Mm. C'est un peu long dans cette attente-là. Mais effectivement, de ce fait-là, tu tombes enceinte relativement vite. Mm. Et comment se passe la grossesse?
La grossesse se passe bien. Après, moi, j'avais quand même le sentiment d'être complètement dépossédée de mon corps. Alors c'était à la fois je me sentais oui effectivement comme une boîte ou une couveuse ou je sais pas quoi, enfin un nid, mais j'étais c'était à la fois ça me plaisait et à la fois d'être dépossédée de mon corps comme ça, c'était un petit peu dur, surtout que les 4 premiers mois j'ai été extrêmement fatiguée, donc je dormais tout le temps. Et je voyais plus les journées passer, je faisais plus rien. Bon, heureusement, j'ai une chérie extraordinaire, donc elle a tout fait ce qu'il fallait faire. Mais et après, du coup, les 5 derniers mois, je pense que j'ai récupéré ma speed attitude. Et après, je sais pas si ça a fait une enfant speed du coup, mais
pourquoi?
Parce que j'ai une petite. On a une petite qui a un sacré tempérament.
Okay.
Le lâcher prise et tout ça, c'est pas trop son truc.
Ça s'apprend.
Ouais. Oui, c'est un long apprentissage.
Tu viens de regarder dans le vide, là, les gens ne le voient pas, mais vraiment.
C'est un long apprentissage.
T'as eu un long regard dans le vide en disant, ok. Non, mais il y a plein d'adultes qui n'y arrivent pas, tu sais.
C'est très vrai.
Donc, keep cool.
Il y a plein d'adultes qui ont des problèmes de sommeil et on leur pose. Enfin, ça a l'air pas d'être un problème pour le reste de la société, mais si ton enfant a des problèmes de sommeil, alors là, tout le monde te pose la question.
Comment s'est passé l'accouchement?
Long. J'ai commencé à avoir des contractions le samedi soir et j'ai accouché le lundi matin. Enfin, à 8h44, donc...
Ah oui.
Ouais, quand même le matin.
Pas mal.
Ouais, c'était long. Ma chérie était venue au moins un cours de préparation à l'accouchement. Donc elle avait été briefée sur les balles de tennis dans le bas du dos, qu'elle devait m'appuyer. On avait préparé des phrases pour qu'elle me booste. Et donc à chaque contraction, je lui tendais les balles de tennis et je lui disais « Vas-y, dis-moi ce qu'il faut me dire à l'oreille et tout. » Alors du coup, ça a duré des heures. Et il y avait des contractions toutes les 2 minutes. Enfin, Donc je sais pas combien de fois elle a dû m'écraser les balles de tennis dans le bas du dos, dans le bas du dos pour que je supporte ça. En plus, je ne supportais aucune position à part assise sur un ballon. Donc en équilibre, je m'endormais entre deux contractions, j'avais la tête qui tombait sur le côté, ça me réveillait. Elle devait du coup être assise aussi sur une chaise d'hôpital là derrière moi.
Ouais.
C'était, elle a été formidable, mais c'était sportif pour toutes les deux.
Le grand classique des pères en tout cas, hein. Tu vois, la chaise d'hôpital où tu sais pas trop où t'asseoir et que t'as pas d'endroit. Mmh. Sans doute, peut-être t'as connu ça après dans ton expérience. Ok. Et comment se passent les premiers instants avec la découverte avec votre fille?
Très chouette, parce qu'après l'accouchement s'est bien fini. À partir du moment où j'ai perdu les os vers minuit, j'ai eu la péridurale rapidement. Je la voulais pas, mais là j'étais au bout de ma vie et la sage-femme elle m'a juste dit j'appelle l'anesthésiste. Avec quand même, elle a attendu quand même que je dise oui, mais c'était un j'appelle l'anesthésiste. J'en ai marre de vous entendre crier. Non,
t'étais fatiguée.
Ouais, j'étais vraiment fatiguée. Ça faisait au moins un jour et demi que j'avais pas mangé, que j'avais pas dormi, donc. Il a fallu que j'ai pu dormir un petit peu pendant l'anesthésie. Elle a été super bien dosée. J'ai toujours pu bouger mes jambes. Je pouvais me mettre sur le côté. Ma fille est née. Enfin, vraiment, la fin de minuit jusqu'à 8h44, ça s'est très bien passé. J'ai eu ma fille sur moi. Charlotte a coupé le cordon.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
J'ai donné la tétée d'accueil et voilà, c'était cool.
Ok.
Après, Charlotte est un peu devenue la maman qui changeait les couches. Moi, j'étais la maman qui allaitait. Alors, on s'est rendu compte que quand même, non, un enfant, c'était pas réduit à changer les couches et à lui donner à manger.
Pourquoi ? Parce que vous étiez répartis les rôles comme ça, c'est ça ?
Oui, au début, c'était un peu ça. Et puis, en fait, rapidement, on s'est dit, mais non, mais en fait, on peut le porter, on peut jouer avec lui. Le moment de changer une couche, ça peut être aussi l'occasion de faire un massage. Voilà, il y avait plein d'autres trucs à faire à côté et que c'était pas aussi simpliste que ça.
Comment vous êtes rendu compte de ça ? Sur le tas ?
Quand Charlotte m'a dit, moi j'ai pas envie d'être la maman qui change les couches.
Ah oui.
Réduite à la maman qui change les couches. Et du coup, voilà, on s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec un bébé ? Et en fait, il y a plein, même quand ils sont tout petits, il y a déjà plein de choses qu'on peut faire, plein de choses qu'on peut partager avec eux. Et c'est comme ça qu'on a découvert, en fait.
Okay.
Vraiment en se disant, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec notre bébé ?
Et tu disais spoiler tout à l'heure, mais assez rapidement.
Ouais, très rapidement.
Charlotte, très rapidement.
Ouais, bah oui, Mylène avait 6 mois quand elle est tombée enceinte, si je dis pas de bêtises. Donc.
Ah ouais.
Ouais, c'est rapide ça.
Ah oui, c'est rapide.
Bah je crois que moi dans mon esprit, je sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, mais j'ai l'impression que quelques jours ou quelques semaines après que Mylène soit née, Charlotte m'a dit j'aimerais te faire un enfant. En fait, elle voulait m'offrir. Ce que je lui avais offert, je pense.
Waouh.
Et du coup, très rapidement, elle m'a dit, mais j'ai envie de te faire un enfant.
Waouh.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-cinés, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Et ça, tu sais, moi, j'ai toujours un truc où je me dis, quand même, les 6 mois, ils sont assez compliqués, en fait, les premiers 6 mois des, on peut même dire la première année, quoi, ouais. Avec un enfant, ils sont assez compliqués en termes de rythme, de sommeil, etc., etc., de fatigue. Ça lui avait pas fait peur, elle s'était dit, ok, let's go.
Non, mais je crois qu'elle a une période, là, quand ils sont tout petits, parce que là, elle me refait le coup. Donc, je crois que quand ils sont tout petits, comme ça, je sais pas, en fait, je pense, j'aurais pas parlé à sa place, mais oui. Je pense que quand ils sont tout petits, les choses évoluent tellement vite, tu te dis toutes ces choses que tu ne revivras plus, qui ne referont plus. Elle me dit que quand Maddy était donc dans nos derniers, enfin la dernière qui est née,
ouais.
Elle dormait d'une certaine façon quand elle était toute petite, avec les bras tendus en avant. Ils ont des bras minuscules, ouais. les poings en avant comme ça et tout, et qu'elle ne le fait déjà plus. Tu vois, elle est déjà nostalgique de trucs que notre fille de 4 mois ne fait déjà plus. Donc du coup, je crois que je pense que le temps file à une telle vitesse quand ils sont petits que ça doit être une façon
d'appuyer des boutons, ouais, revivre les choses, c'est ça.
Ouais.
Ok. Donc 6 mois plus tard, allez bim, c'est reparti. Ouais. Et elle de son côté cette fois-ci, donc elle avait vraiment switché dans sa tête, c'est ça. Pendant, est-ce que c'est sans vouloir parler à sa place, mais est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que qu'est-ce qui a fait qu'elle
Non, on n'en avait pas du tout parlé. Ça a été une très grande surprise pour moi parce que pendant toute la grossesse de Milan, surtout les 4 premiers mois où je te dis où j'étais extrêmement fatiguée, je me disais tout le temps, mais comment je vais faire si à la seconde grossesse je suis aussi fatiguée et que j'ai un enfant en bas âge? Donc vraiment, moi j'étais partie pour faire les grossesses. On voulait pas qu'un seul enfant, et moi j'étais partie pour faire les grossesses. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah, ok, je savais pas que du coup ça serait ma seule et unique grossesse. Je l'ai pas vécu comme étant la seule et unique grossesse, tu vois. Je croyais que c'était que j'en aurais d'autres.
Et ce qui t'empêche pas d'en avoir d'autres après.
Non, mais j'aime pas les PMA. Enfin, je trouve ça.
Ok.
Enfin, moi, la partie stimulation, insémination, partir du jour au lendemain en Espagne, ça.
Oui, on n'a pas parlé de cet aspect, de cet aspect. Bah, alors qui va disparaître ou qui est déjà disparu. Comment ça se... J'ai pas suivi dans les détails.
Je crois pas forcément que ça va vraiment disparaître. Il y a beaucoup de couples hétéros qui partent en Espagne, en Belgique et tout ça.
Ah ouais, ok.
Oui. Parce que les délais sont très longs en France, parce que les conditions sont très restrictives. T'as le droit enfin, en théorie, et si je dis pas de bêtises, grosso modo, à 7 inséminations et 3 FIV, quand ça c'est fini, bah, t'as plus qu'à partir à l'étranger. Il y a des âges limites, il faut pas que les deux aient des problèmes, enfin, que les deux soient stériles. Il faut pas qu'il y ait un double, qu'on donne des gamètes aux deux.
Ok.
Enfin, si tout ça n'a pas changé. Hein.
Ouais.
Et finalement, il y a beaucoup de couples hétéros qui se retrouvent à partir à l'étranger. Et puis, les délais sont très longs. Alors, je ne sais pas comment...
Ça va évoluer peut-être dans les mois à venir. Mais
moi, pour la dernière, on n'était pas loin d'avoir le droit en France. Enfin, on aurait peut-être pu attendre un peu, mais ça ne servait à rien parce qu'on connaissait le système pour aller en Espagne. Et voilà.
Ok. Oui, parce que pour les gens qui ne savent pas, la loi bioéthique a évolué et la PMA a été élargie...
aux femmes, aux couples de femmes et aux femmes seules.
Cet été, là, enfin, il y a quelques semaines. Ok. Et donc, c'est parti. Charlotte a envie d'avoir des enfants. Et toi, de ton côté, tu te dis, bah, peut-être c'est ma dernière grossesse, c'est ça? C'est fou, ça, quand même, ce truc.
Parce que bon, je savais pas si il y avait plein de questions après les assumer financièrement leurs études, tout ça. Même avoir de la place dans la maison ou dans la voiture, oui. Ou les activités périscolaires, de pas se retrouver à être taxi et emmener les uns à droite et à gauche et faire plus que ça. Donc je savais pas entre 2 et 3 quel...
Ce qui arrive à un moment donné, hein, mais bon.
Je savais pas si 2 enfants, ça, grosso modo, ça serait suffisant. Mais je savais pas si 3 enfants, ça serait pas...
Trop.
Et du coup, bon bah, il était probable que j'ai une grossesse, que Charlotte ait une grossesse, et que ça soit la fin de l'histoire. Et puis surtout, là, je suis passée de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que moi, qui avais été un peu la star, c'était à moi que les médecins s'adressaient, c'était à moi que les amis, la famille, les voisins s'adressaient pour me demander comment est-ce que ça allait, comment allait le bébé. Et ben là, il n'y avait plus personne qui s'adressait à moi. J'étais une plante verte. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai mis ce mot de plante verte. Et c'est celui qui me va bien. C'est joli, une plante verte. C'est indispensable et on aime bien en avoir. Mais voilà, tu n'as pas envie d'être la plante verte.
C'est clair.
Et vraiment, je ne savais plus trop où était ma place. Quand tu vas chez le médecin et que tu as la réponse à toutes les questions que pose le médecin, mais il les pose à ta chérie, il les pose à la personne qui est enceinte. Donc tu vas pas enfin, t'es là à côté et du coup tu te tais. Alors qu'avant c'était moi qui répondais à tout, tu vois.
Ouais. Et c'était frustrant.
À la fois je me disais, est-ce que je m'efface trop et on dirait que je suis pas impliquée. Et à la fois je me disais, est-ce que si j'en fais trop, on va pas vouloir croire que je veux pas lâcher le statut de vedette et de personne, voilà. Au cœur de l'action. Et du coup, trouver un juste milieu là-dedans, c'était pas facile.
Alors qu'en fait, tu vivais la grossesse, alors peut-être pas de la même façon, mais en tout cas dans tes tripes.
Oui.
Émotionnellement, c'était.
Ah oui, oui.
C'était pareil, quoi.
Alors il y avait aussi une deuxième chose, c'est que donc Milan, notre première fille, qui a aujourd'hui 3 ans. Elle a été 9 mois dans mon ventre et au final, quand elle est sortie, j'étais pas si pressée que ça qu'elle sorte, bizarrement. Alors je sais que juste avant, j'ai dit que j'avais pas aimé être dépossédée de mon corps, mais tout ça, c'est...
Oui, c'est plein de paradoxes.
Voilà, c'est tous les paradoxes. Autant...
Parce que quand... t'étais bien avec elle, c'est ça? Il y avait un côté...
Oui, je l'avais pour moi tout le temps.
Je suis désolé, hein, t'es la première personne qui a accouché d'une personne dans mon podcast, donc j'ai des questions que j'ai jamais posées.
Je l'avais pour moi, je l'avais tout le temps, je l'avais... Voilà, et j'avais aucun mot de grossesse, j'avais, à part du diabète, mais enfin, qui était vraiment super facile à gérer, j'avais aucun problème. Donc, ouais, j'étais pas spécialement pressée qu'elle sorte. Autant, quand Charlotte a été enceinte de notre deuxième enfant, de Marley, un petit garçon, j'avais qu'une hâte, c'est qu'il sorte. Mais vraiment, mais c'était horrible. Et en plus de ça, j'avais trop du mal à aller lui parler, à toucher son ventre. À chaque fois, ça me rappelait qu'il était dans son ventre et pas dans le mien. Et moi, ça, c'est un truc, j'attends de rencontrer un homme qui me dise « Ah ouais, moi aussi, c'était terrible de pas l'avoir contre moi. »
Bah, je peux te le dire, moi, ça a été terrible pour moi.
Ah, merci.
Et je crois qu'il y a plein de mecs qui vivent ce truc-là de... Enfin, moi quand ma femme a accouché, je me suis rendu compte que je serais jamais aussi complet qu'elle en tant qu'être humain, tu vois. Je n'arriverai jamais à vivre tous ces 9 mois qu'elle a vécu, de donner la naissance. Enfin, qu'est-ce que ça fait de faire sortir un être de toi, quoi, tu vois. C'est vraiment complètement dingue. Et je sais pas s'il y a beaucoup de mecs qui le conscientisent, quoi, tu vois. Mais moi, vraiment, ça a été un truc qui a été terrible pour moi.
Moi, quand je pose la question, j'ai l'impression que les gens, je leur pose la question pour la première fois, enfin, qu'ils se sont jamais posé la question. Ou alors que, non, les hommes portent pas d'enfants. Mais oui, mais alors, je m'en fiche que les hommes portent pas d'enfants. Est-ce que t'avais pas quand même envie de l'avoir? Moi, les 9 mois ont été durs parce que dès que je le sentais, j'avais envie de le sortir.
pour l'avoir.
Mais oui, pour l'avoir. Et d'ailleurs, je disais tout le temps à Charlotte que j'avais peur qu'une fois qu'il serait né, que je me l'accapare, que je le prenne tout le temps dans mes bras, quoi, que je rattrape ces 9 mois où je l'avais pas eu.
Ah ouais. Alors que tu vois, moi, pas du tout. Pour le coup, pour moi, il y avait un truc un peu important de moment de gestation, là, tu vois.
Ah non.
J'avais un truc que j'adorais faire, c'est que j'allais me coucher assez tard. Moi, j'étais au lancement de ma boîte et tout à l'époque. Et donc, j'allais me coucher assez tard. Et parfois, je me glissais dans le lit à 2-3 heures du mat, tu vois. Bah, ma femme, mon ex-femme, elle dormait. Et en fait, j'adorais venir me blottir contre elle et mettre ma main sur le ventre et en fait sentir que bah, ma fille à l'époque elle tapait contre ma main et en fait elle mais ma femme dormait encore si tu veux donc c'était canon parce qu'en fait c'était juste notre moment juste à tous les deux.
J'aurais adoré vivre les choses comme ça, j'aurais vraiment aimé et je me suis forcée, enfin j'ai vraiment essayé et tout, mais c'était un tel pincement au cœur à chaque fois que je le sentais inaccessible.
Mais je crois que c'est parce que t'as été
peut-être.
Tu as mis bas, tu as créé un enfant auparavant, en fait. Que tu as ce truc-là, que j'imagine ton corps, il doit avoir cette mémoire ou ce truc fou, quoi. Et je comprends, quoi.
Et j'avais peur que.
Tu culpabilisais aussi.
J'avais peur qu'il me reconnaisse pas à la naissance parce que j'aurais pas passé assez de temps avec lui pendant la grossesse. Et que du coup, il allait même pas vouloir de moi à la naissance, en mode mais c'est qui cette étrangère, quoi.
Oh là là.
Et du coup je me forçais presque pour faire plaisir à Charlotte et puis aussi pour qu'il me connaisse un peu, tu vois, avant qu'on se rencontre. Et
tu sais que c'est des prises de tête de plein de mes invités, hein. Donc y a un vrai truc, y a un vrai truc de similarité, je trouve. Et tu vois, par exemple, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on s'adresse jamais à toi. Il y avait un truc, moi, que j'adorais faire pendant la première grossesse notamment. Parce qu'après, je me suis calmé. Mais en fait, à chaque fois qu'on était au resto et qu'il y avait une serveuse qui demandait comment ça se passe, en fait, j'adorais répondre à la place de mon ex-femme et juste faire « Oh bah moi, ça se passe très bien ». La meuf, elle, systématiquement, en fait, les serveurs, les serveuses, ils me parlent, ils me regardaient mal.
Mais non, ils te regardent même pas. ils te regardent même pas. Tu es une plante verte. Je suis sûre qu'il y a des plantes vertes dans le restaurant. Et ben le serveur s'adresse pas plus souvent à eux, à ces plantes vertes. Mais c'est vrai que t'es là et tu dis, mais je connais la réponse à toutes les questions que vous posez. Vous pouvez aussi me les poser à moi. Et quand en plus ce sont les mêmes personnes, tu vois, que je sais pas, des amis ou et ils te les ont posées à toi et qu'après te les posent plus à toi.
Ouais.
Et tu te dis, mais je suis toujours la même personne. Tu es toujours la même personne. Je suis toujours la même personne. Pourquoi est-ce que notre relation a changé?
Parce que tu parles toi vraiment des aspects techniques de la grossesse ou juste de la façon dont tu le vis? Parce que pour moi, c'était ça le truc, quoi. C'est comment vous allez, comment vous vivez le truc et tout, quoi, tu vois.
Si les gens demandaient comment va le bébé, est-ce qu'il a bien grandi, l'échographie s'est bien passée.
Ah oui.
Bah écoute, moi j'ai assisté à toutes les échographies, je peux te répondre. Donc c'était une des questions. Ou même, moi, quand on était au rendez-vous médicaux et que le médecin. Avec Charlotte, on parle beaucoup.
Ouais.
Et du coup.
Vous en avez parlé de ça?
Ouais, on en a un petit peu parlé, oui.
Ou alors, elle va le découvrir avec le podcast.
Peut-être dit autrement. Mais non, mais elle m'a déjà entendu employer le mot de plante verte.
Ouais.
Ouais.
J'imagine. Comment se passe pour toi? Donc, j'ai bien compris, cette grossesse s'est passée de façon assez compliquée pour toi parce que t'avais.
J'ai pas réussi à en profiter.
À ce point-là?
Oui. Parce qu'il me manquait trop. C'était difficile. Il me manquait tout le temps. Enfin, il me manquait dans mes bras, quoi.
Waouh. Ok. C'est fou. Ok. Je comprends. Je comprends et en même temps, je me dis c'est fou parce que tu vois, autant moi j'étais à fond vraiment sur les grossesses, autant je me suis jamais dit ça. Je me suis dit c'est le moment où le bébé il faut qu'il grandisse, quoi. Tu vois. Donc c'est son moment où il faut qu'il.
Oui, parce que tu t'es pas dit que toi t'étais aussi capable de le faire grandir. Alors que moi je me disais que
je peux
très bien le faire aussi.
Je l'ai déjà fait. Je suis capable.
Bah ouais, peut-être effectivement oui que toi tu t'es dit qu'avec ta femme qui pouvait faire ça. Alors que.
Toi, tu sais.
Oui. tu vois une garde alternée, tu vois.
Ouais.
Un petit peu dans son ventre, un peu dans mon ventre. Oui, un mois chacun.
comment se déroule cette grossesse, cette naissance?
La grossesse, pas trop mal. Charlotte fait un diabète gestationnel qui est encore plus ridicule que le mien. Enfin, vraiment, elle n'a même pas besoin de l'équilibrer. Enfin, on fait un petit peu plus attention à ce qu'on mange, mais c'est tout. Et elle a mal à la hanche, donc elle a des douleurs qui font qu'elle ne peut pas toujours s'installer comme elle veut pour l'histoire du soir avec la grande. Mais elle ne prend pas beaucoup de ventre. Voilà, la grossesse se passe bien, à part ses douleurs à la hanche qui étaient vraiment handicapantes pour elle.
Elle a bien vécu la grossesse, elle, de son côté.
Oui.
Elle qui avait peur, ou qui avait pas envie. Bref.
Oui, okay. Oui, oui. Elle a de super grossesses quand même. Et puis, un jour, elle me dit qu'elle ne le sent pas beaucoup bouger. Et je lui dis, dans ma tête, je me disais, bon, je vais pas l'inquiéter, mais pas beaucoup bouger, ça veut dire quoi? Enfin, ça veut pas dire pas bouger du tout, mais ça veut, du coup, elle m'a dit ça le matin, l'après-midi, je lui dis, bon, maintenant, ça suffit, allonge-toi, prends un morceau de sucre, et pendant une heure, tu te concentres sur le bébé, tu vois si tu le sens vraiment bouger ou pas. Et à la fin de l'heure, elle m'a dit que non, qu'elle le sentait pas beaucoup bouger. Et du coup, j'envoie un message à notre sage-femme qui me dit allez tout de suite à la maternité. Donc on va à la maternité et ils font l'échographie. Tout va bien, le cœur du bébé a un bon rythme, mais c'est vrai qu'il bouge pas, enfin qu'il bouge très peu. La sage-femme appelle le gynéco et il refait une échographie, il vérifie, il voit rien d'anormal. Il dit, mais par contre, on va quand même déclencher l'accouchement parce que et il bouge pas. Et je suis extrêmement rassurée de savoir que son cœur bat bien. Donc pour moi, c'est bon, tout va bien. Et en plus, on me dit que ça y est, je rentre plus à la maison sans mon enfant. Ça y est, je vais l'avoir dans mes bras. Je te dis que ça fait 9 mois que je le veux dans mes bras. Et Il déclenche l'accouchement avec un ballonnet, donc c'est quelque chose de très doux. On n'est pas du tout parti direct avec de l'ocytocine ou en césarienne d'urgence. Enfin, on est commencé par un truc très doux. Et puis, petit à petit, Charlotte a un peu des contractions toute la nuit. Moi, j'allaite toujours ma fille de 15 mois. Donc le soir, je suis rentrée pour lui donner une tétée, puis essayer de la coucher. Bon, j'ai pas vraiment réussi parce que elle sentait qu'il y avait quelque chose. Donc mes parents l'ont couchée, moi je suis rentrée, j'ai passé toute la nuit avec Charlotte. Et le lendemain matin, je retourne chez moi pour lui redonner notre tétée. C'était vital pour ma fille, mais pour moi aussi, hein, parce que sinon, j'aurais pu tirer mon lait, mais bon, il fallait aussi que je voie ma fille. Et sur le chemin du retour, c'est-à-dire de ma fille à l'hôpital, Charlotte m'envoie un message, m'appelle, je crois, pour me dire « T'es où ? Tu fais quoi ?» Et je dis je monte dans la voiture, j'arrive. Elle me dit « Ok, traîne pas, dépêche-toi. » Et là, je me dis « Ça y est, ils vont m'annoncer qu'il y a une césarienne en urgence. » Vraiment, je redoutais ça, parce que la césarienne... il y a un peu plus de produits pour le bébé, il peut être un peu plus groggy, l'allaitement c'est moins facile, enfin c'est pas ce qu'on souhaitait, une césarienne. Donc je me dis ça y est, ils vont m'annoncer une césarienne, c'est sûr. Et quand j'arrive, le gynéco est là et il me dit on va rentrer on va aller voir votre épouse. Et je rentre dans la pièce et il me demande de m'asseoir. Je trouve que c'est un peu long pour annoncer une césarienne.
Ouais.
Et il me dit que le cœur du bébé s'est arrêté de battre. Le matin, quand Charlotte a pris son petit déjeuner, elle l'a senti bouger. Vraiment un vrai coup. C'est celui que t'attends depuis bien 24 heures. Et là, je lui dis au gynéco que mais je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Je refuse. Et puis, le sol se dérobe sous mes pieds, mais je crois au sens littéral du terme, parce qu'à un moment donné, quand j'étais vraiment au plus mal... Charlotte a fini par appeler quelqu'un pour qu'on vienne s'occuper de moi et du coup ça m'a fait reprendre conscience avec la réalité. Je me suis rendu compte que j'étais sous un meuble ou je sais pas quoi, enfin une espèce de table de nuit. Non, il n'y a pas de table de nuit dans ces trucs là, mais
tu t'étais allongée par terre.
Ouais, que je sais plus. Et cette sage-femme qui a été extrêmement humaine Si je dis pas de bêtises, c'était la première fois qu'elle était face à un... qu'elle perdait un bébé. Et je me rappelle qu'elle m'a proposé un verre d'eau et j'avais tellement envie de lui dire « Mais j'en ai rien à faire de ton verre d'eau !» Alors qu'elle était d'une tendresse et d'une patience avec moi qui était dans une colère. Et du coup on a pris la matinée, Charlotte et moi. Il n'y avait plus besoin de continuer à forcer le travail à continuer. Enfin, le travail continuait. Elle continue à avoir des contractions. Hein. Le corps de Charlotte devait pas être au courant que le bébé était mort, donc elle continue à avoir des contractions. Mais on n'a pas fait en sorte qu'il soit accéléré. Et du coup, on a pu avoir la matinée pour voir nos parents. Quand mes parents sont arrivés, je suis allée à leur rencontre et comme ils me voyaient tellement mal, ma mère n'arrêtait pas de me dire « mais dis-moi ce qui ne va pas ». Et je ne voulais pas crier à travers le couloir, mais bon. Du coup, je m'avançais comme je pouvais et j'ai dit « le cœur s'est arrêté ». Et ma mère m'a dit « mais le cœur de qui ?» Et là, je me suis dit « ça aurait pu être le cœur de Charlotte après tout ». Et du coup, je me suis dit que bon, ça aurait pu être pire que ça. J'aurais peut-être pu les perdre tous les deux. Il y en a, ça arrive. Hein.
Bien sûr.
Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, j'ai encore ma chérie. Ça a été le...
T'as eu ce déclic, là ?
Ouais, ça a été la petite lumière de me dire, j'ai encore ma chérie. Je l'ai... On a eu donc la matinée pour nous, l'après-midi. On a eu la matinée plutôt pour nos parents et l'après-midi pour réfléchir à ce qu'on allait faire. Et puis dans la soirée, ils ont lancé un peu plus activement le travail et elle a accouché le lendemain matin de notre petit garçon. Donc qui est mort la veille et est né le lendemain. Donc sur sa plaque, les dates sont inversées par rapport à toutes les autres plaques du cimetière. Il a une date de mort qui est avant la date de naissance d'un jour. Et ça a été un accouchement atroce parce que Charlotte a résisté aux deux anesthésies. Aux deux péridurales, avec de l'ocytocine, avec des contractions qui étaient très 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 fortes. Rien ne fonctionnait sur elle, même les gaz, les trucs locaux. Elles ont vidé tous les placards sur Charlotte. Elles ont dû faire un réapprovisionnement le lendemain, elles ont tout vidé. Elles passaient régulièrement des coups de fil à l'anesthésiste pour savoir si elle pouvait combiner deux choses, s'il n'y avait pas de contre-indication, et rien n'a fait. La douleur de Charlotte c'était une douleur monstrueuse. Enfin, c'était une douleur horrible. Et je n'ai rien pu faire. Mais rien. Elle m'avait tellement aidée avec ses balles de tennis et ses phrases. Ces phrases qui me boostaient, qui me donnaient de la force. Et là, elle souffrait. Il y avait ces deux sages-femmes qui étaient là pour nous tout le temps, enfin pendant des heures, elles sont restées avec nous, qui ont fait tout ce qu'elles ont pu. Et moi, j'étais là à côté. Je pouvais lui tenir une jambe ou lui donner une main. Et voilà, elle répétait régulièrement qu'elle voulait que la douleur cesse. Et voilà, ça a vraiment été l'accouchement. L'accouchement horrible, vraiment horrible. Mon fils a fini par sortir, atterrir dans les mains de la sage-femme. Je l'ai suivi dans la petite salle de naissance. J'étais très partagée. Est-ce que je pouvais quitter Charlotte ? Est-ce que je devais suivre mon fils ? Je l'ai suivi et je me rappelle que je disais à la sage-femme, donnez-le-moi, donnez-le-moi. Et en même temps, je n'allais pas le chercher moi-même. Il fallait qu'elle me le donne, quoi. Enfin, et elle me l'a donné et j'ai enfin senti son poids dans mes bras. Chose que j'avais attendu pendant 9 mois. Donc j'ai eu enfin ça. Et puis après Charlotte s'est remis assez rapidement. Je dis n'importe quoi. Elle s'est pas du tout remise assez rapidement, mais on est sorti de l'hôpital assez rapidement. Et on est rentré à la maison pour retrouver ma fille, enfin notre fille, notre grande. Et puis on a enterré notre fils et ensuite il y a eu la Covid. Ensuite il y a eu le monde qui est parti en vrille. Et Charlotte dit qu'elle a souhaité que la Terre arrête de tourner. Et la Terre s'est arrêtée de tourner. Mais après, on voulait que la Terre se remette à tourner parce qu'on voulait, un autre enfant. Et là, avec les frontières fermées, je me suis dit, bah, c'est foutu. Je sais pas. Et là, encore une fois, tu vois, quand le monde devient comme ça. Aussi dangereux parce qu'on était quand même au premier confinement, on était tous à laver nos courses, à sortir avec masque et gants. Enfin, tu te rappelles, on était dans une autre. Et ben même dans ce moment-là, dans un monde aussi chaotique, ben mon désir d'enfant, il était plus fort. Et des fois, je trouve quand même que c'est très 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 égoïste de faire des enfants quand même. C'est vraiment une envie de les faire quoi qu'il arrive, quoi. Et c'est
comment vous avez géré ce deuil, toutes les deux ? Parce que tu es passé très vite là-dessus, mais...
On avait Mylène.
Ouais.
On avait Mylène qui avait 15 mois. Et il fallait sortir, il fallait aller... C'était au mois d'août. Nous, septembre, octobre, novembre, on habite en Corse, on va se baigner. Donc on allait à la plage, l'eau nous portait. Je crois que c'est beaucoup... J'habite en ville, j'adore Paris, j'ai passé 6 ans à Paris, j'adore la ville, j'adore être là en ce moment à Bordeaux. Mais l'eau, la mer, nous a beaucoup lavé, nous a beaucoup porté. Et les arbres, aller dans une châtaigneraie, venir soi-disant aider à ramasser les châtaignes et en fait juste s'allonger sur le tapis de pique-nique et regarder les arbres. Aller un peu en montagne et pareil, s'allonger et vraiment regarder la cime des arbres. Ça nous a fait beaucoup de bien. Et c'est en le vivant qu'on s'en est rendu compte. On n'avait pas idée que ça nous ferait du bien. On ne l'a pas recherché. Ça nous est tombé dessus. Après, le fait que Mylène n'ait que 15 mois, on ne pouvait pas passer notre journée à pleurer ou allonger sur le canapé. Franchement, ça nous aurait bien dit, hein. Vraiment rester dans le lit à se regarder des séries. On a regardé une série sur la planète aussi. C'est vraiment bête, mais c'est des trucs comme ça, bah, ça qui m'ont marqué, qui m'ont fait du bien, avec des jolies images, des très très belles images, des animaux, des paysages. Et puis après, de toute façon, la journée, il fallait se lever. Mylène se lève peut-être moins tôt maintenant, mais elle se levait extrêmement tôt. La journée commençait à 6 heures au mieux ou avant. Et puis, il fallait l'occuper, ce petit bout de chou qui était pour rien. Et puis on pleurait le soir. Mmh. On débriefait tous les soirs pour savoir où est-ce qu'on en était. Ça aussi, je pense que ça nous a beaucoup aidés.
C'est bien de parler.
De savoir.
Très bon conseil.
Et puis où est-ce qu'on est l'autre ? Et puis le fait de parler, ça permet aussi de savoir où est-ce qu'on en est nous. Et on s'est fait aider aussi par psychologue chacune de son côté et une psychiatre en couple, toutes les deux ensemble. Et d'entendre l'autre expliquer des choses à une tierce personne, c'est bien aussi. Parce que peut-être qu'elle pense que pour nous c'est acquis, ou on n'en a pas reparlé, alors que pour l'autre c'est nouveau, donc elle va le réexpliquer, nous on va le réentendre. On n'est plus disposés de la même façon aussi pour entendre des choses. Donc ça aussi, ça nous a beaucoup beaucoup aidés. Et puis la famille, l'entourage. Charlotte, elle avait déjà vécu... elle a perdu... Je crois qu'elle avait 14 ans quand elle a perdu sa petite sœur à 9 jours de vie. Donc elle avait une certaine expérience de ce que c'était que perdre un bébé. C'était sa petite sœur à l'époque. Et elle m'a dit, moi je veux qu'on parle. Et je veux qu'on parle de Marley. Je veux qu'on... Je veux qu'il y ait des choses à la maison qui montrent son passage et qu'on en parle autour de nous. Et puis moi franchement, j'allais faire mes courses sur le parking, je croisais quelqu'un, j'avais envie de lui parler de mon fils. Enfin, j'en aurais parlé toute la journée. C'est pas une bonne chose d'en parler toute la journée, mais par contre dans ta tête, c'est toute la journée. Toute la journée, toute la nuit, et toutes les personnes qui se disent ah ben je vais pas lui en parler parce que peut-être qu'elle n'y pense pas. Tu crois que je pense pas à mon fils? J'y pense tout le temps, tu peux m'en parler à n'importe quel moment. Il n'y a pas un moment où aujourd'hui ça va faire 2 ans, au mois d'août ça fera 2 ans. Il est tout le temps avec moi, mais plus comme avant. Avant, je pensais tout le temps à lui. Et franchement, je comprenais pas les personnes qui avaient peur de me faire penser à lui à un moment où je ne sais par quel miracle je serais pas en train de penser à lui.
Tu me disais aussi que l'un des trucs, c'est qu'on t'avait... On avait proposé à Charlotte un suivi psychologique, c'est ça ?
Oui, après la mort de Marley, l'hôpital a proposé qu'on rencontre... le psy de l'hôpital pendant le séjour, hein, donc, et je crois qu'il était en vacances ou quelque chose comme ça. Et au final, elle est revenue le voir. Et il a proposé, donc elle a eu une séance avec lui, et là, je crois que la séance suivante, il a proposé de nous voir à toutes les deux. Mais j'ai pas réussi.
T'aurais bien aimé.
On m'a pas proposé, on m'a pas insisté, on m'a pas encouragé, on m'a pas dit mais si tu peux, on n'a pas beaucoup insisté, on m'a juste proposé une fois vite fait comme ça et j'ai dit oh ben non, je pense que ça va. Et puis voilà. Après il y a eu du très bon boulot de fait avec Charlotte. Ils ont utilisé la technique de l'EMDR qui permet de se désensibiliser d'un souvenir douloureux. Ça veut dire qu'on peut y repenser sans tout revivre les émotions de l'époque. Donc il y a un super travail qui a été fait pour elle, avec elle. Et puis Charlotte, elle par contre, elle m'a pas lâchée. Elle m'a dit bah nous on va faire des choses à côté. Enfin, c'est très bien que l'hôpital m'ait proposé de voir un psy, mais toi aussi il faut. Elle a essayé un petit peu de me booster. C'est la seule qui a essayé de me booster, mais du coup comme je sentais pas de l'autre côté qu'on me proposait aussi.
Tu veux dire de la part de l'institution, quoi.
Oui.
À un moment donné, de venir dire, bah, t'es aussi dans le même bateau,
oui,
quoi.
Oui, c'était celle qui avait accouché, c'était celle pour qui ça s'était passé dans son corps. Il y avait beaucoup cette histoire de ça s'est passé dans sa chair, ça s'est passé dans son corps. Donc, oh, c'est elle qui a souffert, c'est elle qui a eu un accouchement difficile, c'est elle qui a perdu, qui a senti, qui a eu un bébé mort dans son ventre. Enfin, c'est elle qui a été traumatisée. Et j'étais OK avec tout ça. J'ai tous ces arguments, je le comprends.
Mais pour autant, toi aussi, tu as vécu un trauma psychologique pour le coup.
Et du coup, Charlotte m'a envoyé voir ma psy. Parce que j'avais commencé, j'avais fait genre 2 séances avec une psy juste avant qu'on perde Marley. Et du coup, je suis allée la voir moi. Du coup, j'ai payé mes séances et je suis allée la voir. Elle était de manière indépendante de l'hôpital. Et on a fait du super travail, elle et moi aussi. Et je me suis sentie... Voilà, là, c'était moi qui faisais la démarche. Elle était indépendante à tout ça. Donc, je me suis sentie plus légitime de continuer pas une thérapie, mais enfin, de continuer des rendez-vous qu'on avait déjà commencé avant. Là, c'était dans l'ordre des choses.
Tu disais un truc très intéressant, c'est que tu disais que tu n'avais pas su demander de l'aide.
Ouais. Je ne remets absolument pas toute la faute sur les gens qui étaient autour de nous. Je crois qu'on m'a demandé et que j'ai dit que non, ça allait. J'ai un peu menti. Enfin, j'ai un peu dit... Ou alors, je ne voulais pas déranger, puis je ne voulais pas trop demander, puis je voulais
toujours légitime.
Cette histoire voilà, de ne pas me mettre au centre... voilà, de pas en faire des caisses en mode bah oui, mais bon, quand même, c'est moins grave quand même ce qu'elle a vécu, elle. Et il y a des petites remarques comme ça qui ont été faites. Longtemps après, tu croises encore des gens qui ont su que ta chérie était enceinte et qui disent alors le bébé. Et donc régulièrement, tu dois dire bah ça s'est mal fini. Et des fois, quand tu t'y attends pas, tu croises quelqu'un et qui te demande alors le bébé. Charlotte, une fois, elle a eu les larmes qui lui sont montées tout de suite aux yeux. Mmh. Et Charlotte et moi, on a un peu ce truc de, on va pas mal toutes les deux en même temps.
Ok.
Du coup, si elle, ça va pas, si elle a les larmes qui lui montent aux yeux, moi, je reste stoïque. Enfin, je reste forte et je reste stable. Et la personne m'a dit, ça se voit que vous êtes moins touchée qu'elle. Mais c'était pas méchant, c'était en mode oui, vous, ça va mieux, elle, ça voit que ça la touche beaucoup.
Oui, donc obligé, tu serres les poings, quoi, et les dents.
Bah, tu dis, j'ai rien répondu, enfin. Parce que sinon, si tu dis, bah non, pour moi aussi, c'est difficile, t'as un peu l'impression de vouloir toujours tirer la couverture vers toi, enfin.
Alors que ça l'était, difficile.
Oui.
Pour toi.
Oui. Oui, mais et puis moi, je m'occupais beaucoup de Charlotte au niveau physique. Après l'accouchement, pendant au moins 2 semaines, ça a été très dur pour elle. Et il fallait sortir Milan. Milan a besoin de sortir 2 fois par jour. Mmh. Donc les gens me voyaient en présence de Milan. Et j'allais pas tirer la tête.
Bien sûr.
Avec Milan à côté. Quand je croisais quelqu'un, je souriais. J'ai Milan à côté, je souris. Enfin, c'est pas un masque et je voulais pas mentir à ma fille, mais je pouvais pas tirer la tête non plus tout le temps. Donc c'est pas parce que je tirais pas la tête que j'avais pas le cœur en 1000 morceaux. Et. Quand quelqu'un te dit oui, toi ça va, que ça, on voit que ça te touche moins, c'est là tu fais bon ben je joue bien la comédie. Enfin pas que je joue la comédie, mais
si tu peux dire ça, non?
Il y avait 2 situations différentes. Si Charlotte était à mes côtés, on se soutenait, on pouvait se regarder d'un coup d'œil, on voyait un peu comment on voulait répondre à la personne. On répondait pas toujours exactement de la même façon. On voulait pas toujours s'étaler de la même façon, suivant si c'est une personne plus ou moins proche. Donc voilà, quand c'était avec Charlotte, on communiquait comme ça. Mais quand c'était avec Milan, je pouvais pas lui montrer. Parce que j'avais peur aussi que Milan pense que c'était soit qu'elle pense qu'elle ait fait quelque chose de mal, parce que les enfants pensent toujours que c'est à cause d'eux si leurs parents vont pas bien, ou alors. Que Marley nous avait fait du mal. Enfin, après qu'elle ait un truc un peu contre Marley. Mmh. Aujourd'hui, elle va au cimetière. Quand on passe devant le cimetière, elle dit coucou Marley, tout va bien. Elle va. Quand on va en famille au cimetière, on pleure pas. Enfin, on est contente, on apporte des fleurs, on fait une petite caresse sur la photo. On a mis une petite photo de la main de Marley sur. Je pense qu'on s'est pas mal débrouillé. Je suis assez contente de. L'équipe qu'on a formée avec Charlotte et je trouve que l'équipe qu'on a formée avec Charlotte, avec l'aide de nos psys, psychiatres, de la famille, des amis, de ma fille, enfin j'oublie personne, hein, mais on avait un bon noyau toutes les deux. C'était une bonne idée de faire ma vie avec elle.
Merci Xia de partager ça. Non mais c'est cool. Et puis merci aussi d'expliquer ce qui est bien. Quand on est dans ta situation et qu'on est extérieur à la situation, tu vois, on ne sait pas trop comment interagir avec les gens. Mmh. Je trouve que c'est cool aussi de dire ce qui, toi, t'as fait du bien, quoi.
On avait trouvé une super conférence qui était destinée à l'entourage des parents endeuillés, qu'on a distribué autour de nous.
Ah, super.
Et il y a des personnes qui ont fait, qui ont écouté. Je ne sais pas si ça a duré bien 1 heure. Et ils l'ont écouté. Et après ça, il y a des personnes qui nous ont plus facilement parlé de Marley. Parce que, grosso modo, y avait encore une autre personne extérieure à nous, enfin une personne qui avait un peu étudié ses parents endeuillés, Et ils avaient la validation un peu d'un professionnel qui avait étudié plein de parents. Et oui, parlez-leur de leur enfant mort. Ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir qu'il n'y a pas que nous qui pensons à lui. Puis ça fait du bien de pouvoir parler de lui. Ça se voit pas quand j'ai les larmes qui montent aux yeux, mais
c'est
vraiment,
pas grave, les larmes.
Mais vraiment, j'ai... Puis je trouve que ce petit bonhomme, il a fait plein de choses. Il a libéré d'autres paroles. Et je trouve qu'il a fait des grandes choses.
Comment ça, d'autres paroles?
Je vais te prendre un exemple. Ma meilleure amie a dû avorter. Et on n'a pas beaucoup parlé de cet enfant. Et après, Marley, on en a parlé. Et ça, c'était chouette. Je pense que c'était chouette pour elle et pour moi. On aurait pu le faire beaucoup plus tôt, mais c'est grâce à Marley qu'on l'a fait. Ça, c'est un exemple.
Trop bien. Tu me l'enverras, le lien de cette conférence?
Ah oui, avec plaisir.
Comme ça, je le mettrai dans les notes.
Ouais, j'ai toujours sous le coude. De temps
si
en temps, je le repartage, oui.
Ok, c'est cool. Et donc, tu disais, le monde s'arrête. Et tu disais tout à l'heure, c'est fou parce que mon envie d'enfant, elle était encore là alors qu'on était en pleine pandémie mondiale. Et il y avait un côté un peu égoïste de ce fait-là de mettre au monde un enfant dans ce monde bizarre. Mais ça ne vous a pas empêché d'y aller.
Non, et puis même de penser que du coup, un enfant, c'est mortel. Et de se dire, on pourrait avoir... ça pourrait nous arriver. Enfin, c'était quand même pas exactement la même chose. Hein, parce qu'on ne sait même pas exactement de quoi il est mort au final. Mmh. Mais on pourrait avoir un enfant malade, on pourrait avoir un enfant handicapé, on pourrait avoir un enfant qui souffre, on pourrait avoir de nouveau un enfant qui meurt. Et des fois, quand c'est viscéral, c'est viscéral. Hein.
Et toi, tu t'es dit, ok, c'est bon, Charlotte, let's go. Ou alors, t'as eu quand même une envie à un moment donné de te dire, moi, je veux bien retourner.
Je pense que c'était important pour Charlotte de réparer, d'avoir une jolie naissance. D'avoir une jolie naissance. Donc, c'est elle qui a fait la troisième grossesse. Celle qui. On a eu. On a une fenêtre ouverte. La clinique était encore fermée. La clinique en Espagne était encore fermée quand on a commencé la stimulation. Enfin, fermée, c'est-à-dire que les visiteurs ne pouvaient pas y aller.
Ok.
On a commencé la stimulation, on ne savait même pas si la clinique allait rouvrir. La clinique a ouvert, on nous a dit de venir. Et là, en fait, on s'est dit, mais il n'y a pas d'avion. Donc on a fait un périple pas possible pour y aller.
De Corse,
Corse
par le bateau, j'imagine, la voiture.
Non, il n'y a pas de bateau qui...
Il n'y a pas de bateau non plus, là.
Ah ouais. Et du coup, on a fait un sacré périple.
En barque?
En barque, là, vraiment, tu sais, non, rien ne m'arrêtera. Et finalement, on y est allé. C'était pas... Le suivi n'avait pas été tout à fait optimal, donc les données qu'on a données à la clinique n'étaient pas très précises. Et on y est allé, on trouvait que les follicules, enfin les gamètes dans le corps de Charlotte étaient encore un peu petits. Enfin, quand on nous a fait venir, c'était pas comme ça pour les trois précédentes stimulations. Et on y est allé, on s'est dit tiens, c'est pas comme d'habitude. Et en fait, y avait un deuxième follicule qui commençait à devenir un peu important. Et ils ne voulaient pas attendre qu'ils soient trop gros. Parce qu'ils sont anti-grossesse multiple. Moi, ma première stimulation, elle a été laissée tomber parce qu'il y avait un risque de grossesse multiple. Et donc là, on y est allé très tôt.
Pourquoi ils sont anti-grossesse multiple? Désolée pour cette
question.
Parce que
c'est plus risqué. Okay. Et je pense, c'est une idée que moi j'ai, mais c'est qu'une croyance. Hein, c'est absolument pas une connaissance que j'ai. Je pense que c'est très important pour eux d'avoir des bons chiffres. D'avoir des grossesses qui se passent bien, avoir des bébés en bonne santé. Et les grossesses multiples, c'est des grossesses à risque. Donc on y est allé. la stimulation a marché. Et puis, quelques temps après, notre gynéco fait... On fait des échographies très tôt quand on fait une PMA pour savoir si ça a marché ou pas, si l'œuf a vraiment été fécondé, si c'est bien implanté au bon endroit. Et on y va avec notre fille. C'est bon, il y a bien un bébé qui s'est bien implanté dans l'utérus, tout va bien par rapport aux dates, il est au bon développement, tout ça. Ma fille s'impatiente un peu, donc je me dis bon bah c'est bon, tout est bon, allez hop. Je quitte la pièce d'échographie, je retourne dans le bureau et là j'entends un échange entre la gynéco et ma chérie qui... Elles sont « Ah, vous voyez ce que je vois ?» Je re-rentre dans la pièce et là je vois qu'il y a deux poches. Et là, je me dis « Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. » Je veux une grossesse plan-plan, moi. Je veux une grossesse tranquille. Je veux une grossesse qui répare. Je veux une grossesse pas stressante. Et là, on me dit que on va avoir une grossesse un peu plus suivie, déjà un peu par rapport à Marley, mais en plus parce que c'est une grossesse gémellaire. Alors, sur le coup, je suis pas très contente. C'était pas mes projets. Et puis, au bout de deux semaines... On a un autre rendez-vous deux semaines après, je ne sais plus exactement pourquoi, pour vérifier s'ils sont toujours là tous les deux ou j'en sais rien. Enfin. Et en deux semaines, je crois que Charlotte, elle a mis un jour à se faire à l'idée. Moi, j'ai bien eu besoin des deux semaines. Mais à l'écho suivante, on a entendu leur cœur et je les aimais, tous les deux. Et je ne voulais plus qu'il y en ait un des deux qui se décroche. Je voulais qu'ils restent là tous les deux. Après, on a eu la gynéco de l'hôpital qui nous a suivis tous les mois et notre gynéco en ville qu'on voulait pas quitter, qui avait fait tout ça pour nous depuis Milan. Du coup, on avait des échographies tous les 15 jours. Je suis allée, je crois, à toutes les échographies. Et puis voilà, on avait deux femmes formidables, enfin deux gynécos formidables. Et on espérait bien que... quand le jour de l'accouchement arriverait, on aurait les mêmes sages-femmes que pour Marley. Et qu'on savait être formidables, parce qu'on les avait testées dans la pire des situations. On savait à quel point elles pouvaient être réconfortantes, bienveillantes, calmes, un phare dans la tempête. Donc, on était bien entourées. Et Charlotte a eu de nouveau une très belle grossesse.
Et toi, comment tu l'as vécu? Tu avais aussi envie de les avoir
en
toi, ou ça s'est un peu passé?
J'ai essayé d'en profiter un peu plus que pour Marley, parce que je savais que peut-être que... Maintenant, je savais que ça pouvait peut-être être la seule chose que je vivrais. Donc, je me disais qu'il fallait que j'essaye de ne pas vivre en attendant le jour de l'accouchement, qu'il fallait que je vive ce jour-là, parce que ce jour-là, je l'avais, et que là, j'avais mes enfants pour le moment, même s'ils étaient séparés par...
par la peau... Une personne, là...
par la peau de Charlotte. Mais... mais que voilà, au moins ça je l'avais, donc il fallait que je profite de ça. Et je suis pas sûre d'avoir beaucoup mieux réussi que pour Marley.
Ah ouais?
Ouais, c'est vraiment très dur. Hein.
Moi je sais pas, si tu le dis, je te crois.
C'est vraiment très dur de pas les, de pas les avoir. Et puis la grossesse s'est bien passée, et l'accouchement était un accouchement de rêve. Vraiment, ça a été. C'était un déclenchement programmé. Donc on avait un rendez-vous avec nos sages-femmes chéries.
Ah, en plus, ok.
On est arrivé avec le petit-déj qu'on lui a donné. Elle nous a installés. Donc, on est arrivé à 9h. Le temps de tout faire, je crois qu'on a commencé à 9h30. Et les bébés, ils sont nés à 15h. Donc, elle a super bien réagi... Au produit qu'on lui a mis. Et puis, quand elle a perdu les os, on lui a proposé la péridurale. Jusque-là, elle n'avait quasiment pas souffert. Les contractions n'étaient pas douloureuses. En attendant la péridurale, c'était un petit peu plus fort, mais ça allait. Elle a eu la péridurale super bien dosée encore une fois. Donc, elle pouvait bouger, mais sans être douloureuse. Et puis, voilà, son c'est comme si son corps se rappelait, c'est ce que nous ont dit les sages-femmes, son corps savait comment il fallait faire pour accoucher. Mmh. Donc, et là, cette fois-ci, elle était d'accord pour... Enfin, c'est peut-être mon interprétation à moi. Cette fois-ci, elle était d'accord pour les faire sortir. Et donc, on est allé au bloc. Elle nous avait briefé pour nous dire le bloc, c'est froid, c'est pas humain, c'est pas chaleureux. Vous allez voir, ça va pas vous plaire et tout. Elle nous avait tellement briefé sur un truc catastrophique que quand on y est arrivé, on s'est dit, bon, ça va. Parce que la maternité et les blocs ne sont pas au même étage. Donc, s'il faut faire une césarienne en urgence, il faut qu'ils prennent, faut qu'ils appellent l'ascenseur, qu'ils montent dans l'ascenseur, ouais. qu'ils descendent. Enfin, ça voilà, on ne s'amuse pas à ça.
Ouais.
Donc, elle a accouché dans un bloc, mais avec des gens formidables. Avec des sages-femmes qui. Avec des sages-femmes, c'est une chance inouïe de tomber sur des personnes comme ça, dans des moments pareils. Et c'est fou parce que ces moments aussi intenses de notre vie, on les partage pas avec nos proches ou avec ma meilleure amie ou ma mère ou tu vois des gens que je connais et que en qui j'aurais confiance. Non, on partage ça avec des effectivement. Bon là, c'était pas des parfaits inconnus, mais on partage ça. On partage des trucs aussi forts avec des personnes. Ben, on sait jamais sur qui on va tomber. Et ce qui a été formidable, on avait fait un projet de naissance. On nous avait briefé sur ce qui était possible, pas possible, mais on en avait bien discuté. La sage-femme nous avait fait 3 rendez-vous de plus d'une heure pour bien débriefer sur comment allait se passer l'accouchement, sur toutes les possibilités. On était au taquet. Et j'avais mis dans le projet de naissance que j'aimerais bien attraper le premier enfant. Et c'est mon fils qui est sorti en premier. Et quand ça a été bon, cette sage-femme qui avait sorti Marley m'a dit d'attraper Morgane. Et j'ai attrapé Morgane et je l'ai mis sur le ventre de sa mère. Et ça, ça a réparé quelque chose. Ça, c'était super chouette de pouvoir attraper mon fils et lui donner un peu naissance. Moi aussi.
Ouais, c'est cool.
Et puis que Charlotte ait un accouchement heureux. Parce que les bébés allaient bien, ils avaient des bons poids, autour des 3 kilos. Morgane un peu moins, m'a dit un peu plus. Et elle n'avait pas souffert. Je crois que même la sage-femme elle était soulagée. Parce que c'était un peu un mystère de pourquoi est-ce que Charlotte avait été aussi résistante à tout l'arsenal qu'elles ont l'habitude d'utiliser. Il n'y avait rien qui l'avait soulagée. Enfin, une péridurale pendant 2 heures l'a soulagée pour Marley. Et là, ça a été super. Je suis partie avec Morgane pour m'occuper de lui. Elle m'a dit qu'il était pressé. Alors, elle est sortie sans que je sois là. Mais au final, ça m'a pas. Je m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard, que j'avais pas été là au moment où Maddy avait mis son nez dehors. Mais c'était pas grave. La gynéco, elle savait qu'on voulait faire un clampage tardif. C'était pas forcément. Évident pour elle. Elle nous avait dit, mais moi, je suis interventionniste, il faut que j'agisse. Et ben, elle a pris sur elle, enfin, vraiment, mais des personnes qui étaient très respectueuses, très à notre écoute.
C'est quoi un clampage tardif, excuse-moi, mais...
C'est le cordon ombilical, ouais. Tu peux le couper plus ou moins rapidement.
Ok.
On a un peu tendance à le couper rapidement. Et puis, au final, on se rend compte que ben, ça a aussi des bienfaits de le couper plus tardivement. Alors pour Morgane, étant donné qu'il y avait sa sœur derrière, on ne pouvait pas prendre trop non plus notre temps. Mais il m'a dit, je crois qu'ils l'ont coupé au bout de 3 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Et après, on est remonté en chambre et on était tous les 4 avec des bébés en bonne santé. C'était chouette.
Et ça a été toi, l'accouchement ?
Ouais. Oui. Oui, oui, ça a
été. Parce que t'as beaucoup parlé de l'accouchement, mais pas vraiment de toi. Enfin, si, oui. Tu t'as un peu parlé de ton fiston.
J'ai pas pu beaucoup aider plus Charlotte. Déjà, avant, elle avait pas mal, après, elle avait pas mal. Donc bon, tant mieux. Mais j'ai un peu été, encore une fois, j'ai suivi. Mais par contre, après, quand on est descendu au bloc, je me suis déguisée. J'ai mis la tenue, tout ça. J'ai essayé d'être un peu incognito. C'était quand même là en mars, donc c'était pas la pire des périodes pour aller dans un hôpital, mais c'est pas non plus voilà. Donc je me suis mis en tenue, je suis allée me mettre un peu dans la petite pièce de naissance, en mode, enfin voilà, je vais pas rester en plein milieu des couloirs au cas où il y a quelqu'un qui me demande ce que je fais là. On pense qu'on m'a plutôt pris pour je sais pas, une assistante ou enfin ou je sais pas, sage-femme en stagiaire ou j'en sais rien. Enfin, et du coup je me suis, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour pas faire un truc qui plairait pas, à me faire virer ou enfin voilà, pour être, pour essayer d'être présente pour Charlotte, pour les bébés. Quand Morgan est arrivée, j'étais très 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 heureuse de pouvoir participer. J'ai coupé son cordon. Après, c'était pas le couper le cordon, c'était pas spécialement important, ni pour Maddy ni pour Marley. Je l'ai pas fait pour Maddy, je l'ai pas fait pour Marley. Ce qui était cool, c'était de pouvoir participer à l'accouchement. Mmh. Et de, par contre, ça fait peur, hein, parce que t'attrapes un truc tout visqueux. Tu vois un bébé que t'as laissé trop longtemps dans le bain, ben c'est pire que ça.
Ouais.
Tu vois un bébé savonneux que t'as laissé trop longtemps dans le bain, ben c'est pire que ça.
Putain.
Et sur le moment, je me suis dit, oh, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que je suis pas capable de l'attraper. Et en même temps, je pouvais pas je pouvais pas faire reculons, je pouvais pas faire marche arrière.
Si tu pouvais, tu
non.
voulais pas, mais tu pouvais.
Ouais.
Ça, j'imagine que Charlotte t'aurait pas dit, ah, dis donc, eh oh, tu te dégonfles. Non, t'aurais pu.
C'était chouette, hein. C'est vraiment chouette de. En fait, dans toute cette histoire, c'est la seule fois où j'ai vraiment été active. Parce que pendant toute la grossesse, bon, bah, je m'occupe de la maison. Pendant les échographies, je regarde l'écran. Pendant les contractions, dans tous les cas, j'ai servi à rien. Donc là, pour une fois, certes, la sage-femme juste à côté de moi, elle aurait fait sans problème, mais j'étais contente de faire ça. Et puis ça, je pense que ça a aussi réparé quelque chose par rapport à Marley. Mmh.
J'imagine. C'est très drôle parce que de tout ce que tu me racontes, j'ai vraiment l'impression que tes grossesses en tant que coparent, tu les vis vraiment comme j'ai pu les vivre moi, quoi, tu vois, en tant que mec, juste à être là à côté, à faire. Eh bien, on va attendre, hein.
Mais ils sont au courant que 9 mois, c'est long à attendre quand même, parce que je veux bien être un peu patiente, mais on peut revoir les délais.
Comment ça se passe maintenant avec donc vos 3 enfants?
Ouais. Alors, juste après l'accouchement, les bébés ont perdu du poids. Ils ont perdu du poids et on a commencé à avoir peur. On nous a aussi aidé un peu à avoir peur. Charlotte voulait les allaiter. Et j'étais à fond dans ce projet-là avec elle. Je voulais la soutenir du mieux que je pouvais. Et en même temps, encore une fois, à quel moment tu te dis est-ce que c'est moi qui impose mes désirs? Je veux que ces enfants soient allaités. Est-ce que c'est moi, voilà, est-ce que je suis un peu tyrannique en voulant un allaitement alors que mes bébés sont en train de perdre du poids? Donc je voulais, et en même temps à quel moment on pourrait me dire t'as baissé les bras trop vite, t'as pas été assez combative, t'y as pas cru, tu croyais pas en elle, voilà, tout de suite à la moindre difficulté t'as dit ok, t'es pas capable, on va aller chercher un biberon. Donc c'était dur de, donc à un moment donné je lui ai dit de toute façon quoi que tu décides je te suis, je pense qu'on peut faire les deux. Je pense qu'on peut insister sur l'allaitement. Et je pense qu'on peut leur donner des compléments. Et à un moment donné, elle m'a demandé d'aller chercher des compléments. Donc, je suis allée faire des petits biberons. Et j'ai ramené des petits biberons. Et bon. Donc, on a donné un peu des compléments. On voulait sortir aussi. On voulait retrouver Milan. On voulait sortir de la maternité. Donc, on est resté 4 jours. Et quand ils ont repris un peu de poids, on nous a laissé sortir. Et en fait, à la maison, ben, c'était toujours difficile. Et quand on est allé voir, on a demandé d'aller voir la médecin qui suit Mylène depuis qu'elle est petite, qui nous a dit, faudrait les aider, quoi. Faudrait, s'ils sont plus vigoureux, ils têteront plus facilement, et il faut enclencher un cercle vertueux. Donc on a réaccepté de... Je suis allée acheter une boîte de lait en poudre à la pharmacie. Et j'ai fait des biberons. Et ça a marché. Ça a marché. Ils ont... Je crois qu'ils ont été complémentés un mois au final. Et là, ils ont eu 4 mois. Et ça fait 3 mois que Charlotte est en allaitement exclusif. Et qu'elle s'en sort super bien. Après, moi, j'allais toujours notre grande de 3 ans.
Ah ouais, ok.
Du coup, s'il y a besoin de les faire patienter, je peux les mettre... je peux leur donner une petite tétée, soit un petit peu nourricière, mais je compte pas trop là-dessus, surtout qu'on m'a bien expliqué que mon lait, il était tout pourri.
Comment ça ?
Parce que j'ai un lait adapté pour un enfant de 3 ans, oui, et pas pour un enfant de 4 mois. Et du coup... voilà, mon enfant est, mon lait n'est pas adapté pour mes enfants et
c'est dur pour toi.
Ah ouais.
Ah ouais.
Ah bah ouais. Mais
non, mais quelle chance tu as en tant que coparent de pouvoir allaiter.
Mais les hommes, s'ils voulaient mettre leur bébé au sein pour leur donner une tétée de réconfort, ils pourraient, hein. Tu sais, quand t'as la maternité et que tu fais, on te propose de faire du pot à pot, il y a plein de bébés qui cherchent le sein, ils s'en fichent de savoir s'ils sont sur leur papa et leur maman. Et les papas, en général, ils disent, bah non.
Ok. J'ai pas fait pot à pot, moi, je suis trop vieux, je crois. C'était pas la mode.
Mais en fait, en soi, quand c'est une tétée réconfort, quand c'est une tétée câlin,
ah oui, ok.
Ils cherchent pas forcément, même Morgan, lui, ça le gênait et il préférait la tétine. C'est-à-dire que quand il avait fini de manger, ça le gênait qu'il y ait encore du lait qui vienne.
Ok.
Et...
Non, je pensais que tu parlais d'un point de vue nutritionnel, non, si non, tu veux, nutritif. Non. Je me disais, ah bon, non.
Non.
Mais, j'allais dire, peut-être qu'il y a des infos que j'ai pas, hein, tu vois, je sais pas moi après.
Par contre, il existe des couples de femmes où les deux allaitent, même celle qui n'a pas été enceinte, et pas qui, comme moi... allaite toujours.
Ok.
Donc, ça, on peut lancer un allaitement, on peut stimuler.
Grâce à la tétée, en fait, c'est ça.
Oui, okay. Grâce à un tire-lait pendant la grossesse.
Je ne savais pas.
Voilà, les deux mamans peuvent être taquées à la naissance.
Ok.
Et allaiter toutes les deux si elles le désirent. Il faut un petit peu s'en donner les moyens, mais c'est du domaine du possible. Après, moi, là, ce que je fais, c'est des tétées pour faire patienter, des tétées réconfort, des tétées câlins, des tétées pour endormir. Si au passage ils prennent un peu de lait, je pense pas que ça leur fasse du mal. Je vois pas en quoi mon lait pourrait être moins bon.
Je te sens un peu t'es chafouin là.
Ouais. Donc après qu'on m'ait dit que mon lait était moins bien qu'un lait en poudre de vache passé à haute température, déshydraté, réhydraté, tout ça. Donc j'ai raconté ça à mon ostéo parce que j'ai eu la bonne idée de me coincer le dos peu de temps après la naissance des bébés. Et quand je lui ai dit qu'on m'avait dit que mon lait il était moins bien qu'un lait en poudre, qu'un lait industriel, elle m'a regardé avec des grands yeux comme ça et elle m'a dit « Qui vous a dit ça ?» Votre lait, il est vivant. Il y a des anticorps dedans, il y a tout un microbiote et tout ça. Votre lait ne peut pas être... Et du coup, ça m'a...
Ça t'a réconforté.
Ça m'a réchauffé le cœur, comme dirait ma fille. et voilà. Et donc maintenant, je ne complexe plus à mettre mes enfants au sein.
C'est bien. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je t'ai pas... Je sais pas, je t'ai pas interrogé. Il y a des choses dont tu aurais voulu parler et...
J'aimerais bien qu'à l'avenir, on voit plus les parents comme une équipe entière, plutôt que seulement pendant la grossesse, la femme enceinte, et puis après le bébé. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent d'avoir été chouchoutées pendant toute la grossesse et qu'on leur ait demandé tous leurs petits mots, tout ce qui n'allait pas, et qu'après on ne s'intéresse plus qu'à leur enfant.
Ça participe aussi au postpartum d'ailleurs.
Mmh. Et dans cette même idée, finalement, de se dire presque que c'est un trio, alors quand ils arrivent par deux, un peu plus que ça. Mais voilà que c'est une petite équipe et que tous les membres sont aussi importants. Et quand je dis ça, c'est pas... je pense pas à moi, mais je pense vraiment à tous les hommes qui, peut-être, ne s'autorisent pas à se sentir importants. Enfin, j'entends beaucoup, beaucoup d'hommes dire par exemple, pour la péridurale, j'avais pas mon mot à dire, c'est son corps, c'est elle qui choisit. Oui, mais pour avoir une discussion, il faut que tu aies aussi des mots, enfin, sinon elle a un monologue. Et oui, c'est pas que t'as ton mot à dire, c'est pas toi qui vas décider pour ta chérie. Mais une péridurale, ça a aussi des effets secondaires. Ne pas en avoir, ça peut te laisser un mauvais souvenir parce que ton accouchement, ça a été que souffrance. Et c'est bien aussi d'avoir son conjoint pour construire sa réflexion. Et souvent, j'entends les hommes dire « j'avais pas mon mot à dire ». C'est son corps, j'ai pas mon mot à dire. Je trouve ça dommage parce que je trouve que du coup, ils s'autorisent pas à se sentir important et à se sentir comme une équipe pour faire ce bébé. Moi, génétiquement, souvent les hommes, ils se réduisent un peu. Enfin, j'ai l'impression que les hommes souvent se réduisent à ceux qui ont donné la petite graine.
Et puis tu fais rien après, surtout. Tu vois, t'as ce truc aussi de. Je l'ai déjà raconté. Moi j'ai eu très vite cette sensation de servir à rien du tout d'un point de vue de la survie de l'espèce, tu vois, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai pas trop peur de la mort et tout, tu vois, mais j'ai eu une période pendant 15 jours, 3 semaines, pendant la grossesse de mon ex à l'époque, où je la voyais mourir. Tu sais, elle traversait la route, je venais la chercher au boulot, elle traversait la route et je la voyais se faire renverser. Enfin, vraiment, j'avais des flashs comme ça, je me disais Et je me suis rendu compte que moi, si je me faisais renverser par un camion, tu vois, d'un point de vue macro, tu vois, de l'humanité, la survie perdurerait tant qu'elle irait bien, quoi, tu vois. Donc, je crois qu'il y a ce truc aussi de. Vraiment, tu ne sers pas à grand chose, quoi.
Ça me rappelle une anecdote où, quand j'étais enceinte, Charlotte m'avait dit. Tant que t'as mon bébé dans ton ventre, tu fais super gaffe quand tu traverses la route. Et j'avais trouvé ça. C'est pas qu'elle me donne des ordres sur comment je dois me comporter. Tu vois, c'est pas réducteur. C'était en mode ce bébé. Moi aussi, je le protège et je le protège en voyant où sont les dangers, et comme t'es sa boîte, il faut que je fasse attention à la boîte aussi qui va. mais voilà, c'était en mode tu traverses pas la va-vite en regardant une fois que t'as déjà un pied sur la route, quoi. Et c'était chouette de la sentir impliquée
Merci beaucoup, Ixia.
Avec plaisir.
C'était super, vraiment. Et ça me fait vraiment plaisir, je te l'avais dit, mais d'avoir un point de vue un peu différent dans mon podcast, c'est hyper canon, quoi. Et en même temps, plein de similitudes, tu vois.
Oui. Oui.
Un grand merci pour le partage, c'était cool.
Et que tous les hommes, que tous les coparents, que tous ceux qui ne sont pas enceintes ne soient pas réduits à des plantes vertes. Et qu'ils ne se réduisent pas eux-mêmes à des plantes vertes.
Je crois que je vais trouver un titre autour de la plante verte, je promets. Un grand merci à toi en tout cas.
Avec plaisir, vraiment. Merci beaucoup.
Salut.
Au revoir.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joel Esquimo qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi, et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundi de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription. at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.